Apocalypse 12, verset 10. Ce sont des versets qu'il faut comprendre. Je vais vous les expliquer au travers de deux textes de l'Évangile. Il y a des versets comme cela qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont été dans la confusion. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Tout à l'heure, nous aurons également un moment de prière. Si vous êtes d'accord avec ce que vous allez entendre, vous pouvez en déduire que Dieu peut vous aider, vraiment. Apocalypse 12, verset 10. « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Regardez bien ce que dit ce verset, que Satan, donc, qui est appelé l'accusateur des frères, celui qui accuse les chrétiens devant Dieu, quand, jour et nuit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, vous connaissez bien ce texte, enfin, vous connaissez bien. Nous pensons parfois connaître des textes, mais peut-être qu'on va voir qu'on ne les connaît pas si bien. Matthieu, chapitre 6, verset 7, c'est le prélude sur l'enseignement sur la prière. Matthieu, chapitre 6, verset 7, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus ? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier, et vous connaissez bien cette prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », etc. Nous y reviendrons. Nous allons faire une lecture, gardez la page, dans Luc au chapitre 18, un autre enseignement sur la prière. Un autre enseignement. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, comprendrez mieux le verset de l'Apocalypse, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Deux textes qui apparemment semblent se contredire. Vous savez combien Jésus nous a exhortés à veiller. Beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts pour la simple et unique raison qu'ils n'auront pas pris ces paroles au sérieux. Ils les croient, ils savent que c'est vrai, mais ils ne les vivent pas. Il y a beaucoup d'enseignements sur la prière, on a lu l'autre jour, « Ce que je le dis à tous, veillez. Veillez et priez en tout temps. Persévérez dans la prière. Luttez. » Dans la prière, tous ces textes, heureux celui qui veille et qui garde ses préceptes. On pourrait multiplier les textes. Les apôtres, un jour, vous le savez, ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Peut-être que plusieurs pourraient dire ce matin, mais monsieur Hugo, c'est pour les inconvertis, cette prédication, sûrement. Vous croyez que nous n'avons pas besoin, même après quelques décennies d'une marche avec Dieu, d'apprendre à prier ? Il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais moi, je suis capable de prier, je sais comment il faut prier. Eh bien, vous allez le savoir peut-être, qu'on a tous besoin de faire des progrès. Est-ce que nous sommes dans ce besoin de dire, Seigneur, mais apprends-moi, j'ai besoin d'apprendre. Vous faites partie de ces gens qui sont tout le temps dans un bon état d'esprit, mais Seigneur, apprends-moi à prier. Si tu dois m'apprendre quelque chose ce matin, il faut absolument que je l'apprenne. Je vais même le noter, je veux l'apprendre. La prière, c'est un, c'est un, C'est important la prière. Parce que si un chrétien ne prie pas, c'est qu'il s'est éloigné de Dieu. Et Jésus enseigne. Il a enseigné. Les chrétiens lui ont dit, enseigne-nous à prier. Mais Jésus leur a enseigné. Quand vous demandez, Dieu répond. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alors on a l'impression qu'il ne faut pas dire grand-chose. Oui ou non ? Puisque Jésus dit qu'il sait ce qu'on va lui demander avant qu'on le lui demande. Même je suis sûr que les prières qu'on fera demain, Dieu les connaît déjà. Oui ou non ? Bon. Dans la deuxième lecture de Luc 18, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. Jésus dit que cette parabole, il l'a donnée dans ce but bien précis, enseigner les hommes à prier et à ne pas se relâcher. Vous êtes d'accord ? D'accord. Bon. Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Alors, qu'est-ce que veut dire Jésus ? Parce que c'est avec des textes comme ceci que les détracteurs ont dit que Jésus se contredisait. Parce qu'il y a des gens qui sont très fins. Ils sont bien sûr meilleurs que le Seigneur. Mais qu'est-ce que donc veut dire Jésus ? Puisque notre Père céleste sait ce que nous allons lui demander avant que nous le formulions. Oui ou non ? Vous le croyez ? Quand vous priez, ne pensez pas que vous allez apprendre au Seigneur quelque chose. Il y a des gens, quand ils prient, ils informent Dieu. Seigneur, tu vois cette femme-là, tu ne dois pas voir qui c'est. Tu sais, cette femme avait la robe rouge dans l'ascenseur. À qui j'ai. Ah, bon, je ne peux pas te prier pour elle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça vous fait rire ? Dieu sait ce qu'on va lui demander. Il sait tout. Il connaît tous nos besoins, mais il y a deux pensées dans ces deux textes qu'il faut bien comprendre si nous voulons être dans la victoire. Quand nous voyons dans le mouvement de Pentecôte, qui est caractérisé par une vie de prière, que des chrétiens ne prient pas, que des chrétiens ne prient plus, que des chrétiens ne sont pas du tout conscients de l'enseignement du Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu a dit est intelligent. Tout ce que Jésus a prononcé est sage, utile. Chaque parole, chaque mot dans la Bible est utile. Quand Jésus pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Ça sent la prophétie. Hélas, que beaucoup de personnes auront perdu la foi. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et en même temps, le Seigneur dit non. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut comprendre l'enseignement du premier texte et il faut comprendre l'enseignement du premier texte. Dans le premier texte, c'est vrai qu'il faut, faire attention aux mots qu'on utilise. Ce n'est pas les mots qui sont le plus important. Est-ce que vous comprenez ? Dans le premier texte, Jésus enseigne bien sûr le Notre Père. Et dans le Notre Père, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons combien il est important qu'il n'y ait pas d'obstacle à la prière. C'est ça que nous voyons dans le premier texte. Dans le deuxième texte, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut rallonger les prières ? Non, mais ça veut dire qu'il faut persévérer dans la prière. Oui, nous avons besoin d'apprendre à prier. Il y a tellement de faux enseignements et des livres qui circulent parmi nous. Moi, j'ai vu des livres sur la prière qui annonçaient que quand tu as prié une fois, justement, avec le texte de Matthieu, c'est pas la peine de prier deux fois. Que c'est un manque de foi si vous priez deux fois pour la même chose. Et ça circule dans nos assemblées. Et ça plaît. Mes frères et sœurs, même le Seigneur Jésus a prié à plusieurs reprises pour certaines choses, croyez-moi. Et tout ça, c'est des gens qui prennent des textes au détriment de tous les autres. Mes frères et sœurs, et ça plaît. Oh, on n'a besoin de prier qu'une fois. Ce n'est pas vrai. Justement, parce que vous avez lu avec moi dans l'Apocalypse qu'il y a quelqu'un, lui, qui ne s'arrête pas de combattre contre nous. Jour et nuit. Il ne s'arrête pas. Oui, nous avons besoin d'apprendre à prier. Oui, nous avons besoin de dire, Seigneur, enseigne-moi, à moi, le premier, à prier comme tu veux. Est-ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous faites des progrès dans la prière ? Est-ce que c'est une question qu'un pasteur peut poser ? Est-ce que nous faisons des progrès dans la prière ? Ou est-ce que c'est devenu une espèce de train-train, de machinerie électronique, on prie parce qu'il faut prier, dont on répète les mêmes choses. On a super critiqué les catholiques qui récitaient des prières, mais combien de gens parmi nous prient de la même manière ? Si Jésus explique ces choses, s'il les explique, c'est que nous avons besoin de nous y conformer pour avoir des prières efficace. Surtout que je vous dis, la question, elle est posée. Quand Jésus va revenir te chercher, je dis te parce qu'il faut quand même qu'on se sente concerné, est-ce qu'il trouvera de la foi dans ton cœur? Est-ce que ce matin, tu dis oui, j'ai de la foi. J'ai cette foi qui fait que mes prières sont entendues. Que mes prières sont efficaces, que mes prières sont utiles. Qu'est-ce que je dois comprendre ce matin sur la prière? Qu'est-ce que Dieu a à me dire sur la prière? Si Dieu m'a entrepris sur ce sujet, c'est que certainement beaucoup ont besoin d'entendre ces choses. Vous savez, l'apostasie, elle est là. Ce n'est pas la peine d'avoir du discernement. L'apostasie, elle est entrée dans le corps de Christ. Elle est dans les églises de toutes les dénominations. Hier, j'étais en train de préparer cette prédication. Il y a une sœur qui était ici avant, qui est partie, qui a déménagé, et qui me disait, Monsieur Hugo, mais juste, j'étais en train d'écrire, c'est facile à comprendre, si les gens ne prient plus, c'est qu'ils s'éloignent de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande théologie pour ça. Si les gens prient et prient plus, c'est de tout leur cœur, c'est qu'ils s'approchent de Dieu. Une église qui ne prie pas ou un chrétien qui ne prie pas est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Une église qui abandonne les réunions de prière, c'est une église qui s'est éloignée de Dieu. Et cette sœur m'appelle au bon moment, des fois je prends pas, ça dépend dans quel état d'esprit je suis. Et là j'ai pris le téléphone, elle me dit, Monsieur Gou, elle me dit, notre pasteur vient de nous annoncer qu'il a supprimé les réunions de prière. Et il nous annoncera dans un mois ce qu'il va mettre à la place. Et voilà, vous pouvez dire que c'est une église où les chrétiens, où le pasteur déjà, se sont éloignés du Seigneur. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, j'en sais rien, mais une chose est sûre, si vous n'avez pas de vie de prière, c'est que vous vous êtes éloigné de Dieu. Ça, c'est sûr. Il vous faut l'accepter d'une manière solennelle, parce que ne vous imaginez pas que vous pourrez vous tenir debout lorsque Jésus viendra chercher l'Église, si on n'a pas de prière, parce que je peux vous dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous accuse jour et nuit devant Dieu pour nous faire chuter. Oui ou non? Je ne pense pas non plus que j'exagère. Est-ce que vous vous êtes arrêté de prier? Il y a des gens qui sont fatigués. Alors ça peut arriver des fois pendant quelques jours, on est fatigué, on ne peut pas prier parce qu'il y a une souffrance. Est-ce que ça peut arriver ça? Bien sûr. Est-ce que le Paul ne dit pas aux Romains que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières? Est-ce que c'est écrit? Oui, il y a des moments, il y a la fatigue, il y a l'épuisement. C'est pour ça qu'on a besoin de se tenir la main ensemble, en tous les cas spirituellement. Et de prier les uns pour les autres, parce que si moi aujourd'hui, je suis fatigué, peut-être que quelqu'un peut prier pour moi. Alors ne jouons pas les super spirituels, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que si vous ne priez plus de manière générale, vous n'avez plus de communion avec Dieu, même si vous pensez que vous en avez. Alors, par contre, si vous avez de l'amour pour la prière, c'est bon signe. Je sais pas si vous aimez prier. Vous aimez prier? Si vous aimez prier, c'est bon signe. Notre façon de prier, je ne parle pas du vocabulaire, notre façon de prier en dit long sur notre communion avec Dieu. Ça, c'est sûr. On devrait le savoir. Je ne reviens pas sur le vocabulaire. On peut être très maladroit et pas avoir un vocabulaire très échalandé. Ce n'est pas grave, ça. Mais je parle de notre vie de prière, même si on n'est pas, si on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Prier, c'est pas chercher des mots pour essayer de convaincre Dieu. Oh, il prie bien. Oh, ses frères, qu'est-ce qu'il prie bien? Qu'est-ce que ça veut dire, un frère qui prie bien? Parce qu'il parle bien. Il prie bien. Voyez comment des fois on est... Mais on a influencé les gens. Alors peut-être qu'on s'est appliqué à mieux prier, à mieux prononcer les phrases, etc. Mais bien sûr que ça n'empêche pas qu'on puisse faire des progrès dans tous les domaines également. Oui ou non? Nous soyons quand même... Je me souviens de ce gars qui s'était converti. Je vous l'ai dit ça une fois. Il s'était converti, il travaillait sur un chantier, puis il avait soif. Il y a quelqu'un qui lui a amené une bière. Alors il avait prié, Seigneur, j'aimerais que quelqu'un m'amène à boire, et on lui a amené une bière. Et le soir à la réunion, il était là. Oh Seigneur, c'est vachement bien. Oh Seigneur, tu sais, cette bière, ça m'a vachement fait plaisir. Voilà. C'était sa première prière. Mais je crois qu'elle était vraie, cette prière. Bien sûr, si moi je priais comme ça dans les réunions, je pense que vous diriez, tiens, il y a quand même un petit truc où il a peut-être bu un peu trop de bière. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais Jésus nous enseigne, c'est important la prière, puisque Jésus dit que celui qui veille pas et celui qui ne prie pas ne sera pas prêt. Donc, il faut, Seigneur, que tu m'enseignes. J'ai beaucoup fait des progrès, d'accord, mais je veux en faire d'autres. Et je veux comprendre un peu plus ces deux textes, ou ces trois textes que l'on vient de lire. Donc, dans Matthieu 6, Jésus explique que l'exaucement ne dépend pas des mots ou de la longueur de la prière. Vous comprenez ? Ça, c'est important que nous le sachions. Dans Matthieu 6, Jésus indique que l'exaucement de nos prières dépend du fait qu'il y ait ou pas des obstacles. Les prières, c'est quoi la prière de Matthieu 6 ? C'est notre Père qui est aux cieux. Est-ce que vous êtes un chrétien qui loue le Seigneur ? Parce que notre Père commence, bien sûr, par de la louange. Notre Père qui est aux cieux. Quelqu'un qui prie, bien sûr, ce n'est pas une question de mots, bien sûr, mais un chrétien, il loue le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. La prière doit être vécue dans la sainteté. La sanctification fait que nos prières sont exaucées. Que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que vraiment je suis vraiment sérieux ? Quand je dis au Seigneur que ta volonté soit faite, ou est-ce que c'est des mots que j'utilise parce qu'on les utilise dans les églises, comme on l'a chanté tout à l'heure, comme Lucas le faisait si bien remarquer, est-ce qu'on vraiment, on chante « J'ai soif de ta présence », est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est un super beau cantique qui a une mélodie merveilleuse ? Ah, quand on chante tout ensemble, que ça me fait du bien d'entendre toutes ces voix, ça me fait plaisir. Moi j'aime vous entendre chanter. Ça m'est même arrivé de m'arrêter de chanter pour vous entendre chanter. Vous ne l'avez jamais fait, ça ? Pourquoi ? Parce que c'est beau. Mes frères et sœurs, il y a plus que la beauté, il y a plus que la mélodie, il y a la parole. Que ta volonté soit faite. Pardonne-nous nos offenses. La prière, elle doit être vécue dans le pardon. Mes frères et sœurs, le deuxième, délivre-nous du malin. La victoire sur les tentations. Oui ou non ? C'est pas un sujet, ça, les tentations ? Moi, je trouve que c'est un gros sujet. Et ce texte nous indique tout simplement que nos prières ne peuvent ne pas être exaucées. Hier matin, je finissais ma prédication, d'écrire, parce que je les écris, mes prédications. J'étais en train d'écrire ma prédication, et je repensais à toutes ces affaires que j'allais vous présenter, la façon dont je présenterai un sujet. Bon, c'est comme ça quand on prêche. Et il y a une sœur qui m'appelle, que je ne connais pas, C'est une sœur qui est d'une église, je ne sais plus où. Elle m'a appelé, écoutez bien. Elle m'a appelé il y a 3 mois. Une situation difficile. Une femme de 70 ans, à peu près, qui a divorcé à 26 ans, parce que son mari a été ignoble, violent, etc. J'en passe. Et cette femme s'est retrouvée à 26 ou 27 ans, toute seule. Toute seule. Et bien sûr, elle a souffert, et ça, elle a été malade physiquement, psychiquement, 40 ans. Et quand elle m'appelle, elle me parle, elle me dit, voilà, j'écoute vos prédications sur Internet, expliquez-moi ce que vous avez dit. Puis elle me parle de sa vie, et puis elle me dit, mais j'ai de la haine contre mon mari. Mais j'ai dit, ma sœur, il vous faut pardonner votre mari. Ah, je ne peux pas. Mais j'ai dit, mais vos prières ne seront pas exaucées. Et hier, alors on a discuté, et hier elle m'appelle et me dit, Monsieur Hugo, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à mon mari. Et Dieu m'a guéri. Et non seulement il a guéri mon corps, mais mon cœur, mon âme, ma tête. Je suis dans une joie et une paix, il fallait que je vous le dise. Vous comprenez le Notre Père ? Bien sûr, ce n'est pas une question de mots. Mais si nous ne pardonnons pas, le Seigneur, il est catégorique. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Écoutez, je sais qu'il y a des textes difficiles à comprendre, je le sais. Mais ne me dites pas que ce texte sur le pardon est difficile à comprendre. Et si vous viviez dans l'amertume, même si vous avez raison, si vous avez été trompé, cette femme, elle avait subi des trucs, franchement. Et quand à 26 ou 27 ans, on se rend compte qu'un homme a fait semblant de se convertir, etc. Mais vous savez tout le cinéma, comment ça marche. Mes frères et sœurs, 40 ans, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous me permettez de donner ce témoignage demain à l'église ? Elle me dit, oui, dites, donnez-le, monsieur Gau. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais parce que c'est des mots. Les gens, ils prient, mais c'est des mots. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Non, ça ne doit pas être des mots. Ça doit être la réalité. Je pardonne, parce que je peux pardonner. Ce n'est pas une question d'émotion, je le sens, je prends... Que je... Là, je ne suis pas en forme, je pardonne. Écoutez-moi, le Seigneur, il n'a pas dit, tu pardonneras quand tu seras de bon poil. Le Seigneur, il a dit, tu pardonnes. Jésus, sur la croix, je pense qu'avec la nuit qui venait de passer, et tout ce qu'il venait de subir, crucifié, le Dieu du ciel et de la terre, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, comme les jeunes l'ont si bien chanté, le Dieu qui aurait pu combattre, croyez-moi, et commander des légions d'anges, en veux-tu, en voilà, il a dit une parole, pardonne-leur. Et en plus, il demande à Dieu de pardonner, parce que lui, ça veut dire qu'il l'avait déjà fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes frères et sœurs, quand nous ne pardonnons pas, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous nous privons de la bénédiction. Oui, ce n'est pas des mots, c'est la vérité. Je dois pardonner. Seigneur, aide-moi dans les tentations. J'en ai marre de toutes ces tentations qui m'agressent. Est-ce qu'on peut avoir des victoires? Même s'il y aura d'autres tentations. Mais mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui guérit, Dieu est un Dieu qui libère. Et il y a des gens qui ont fait semblant de pardonner. Ils sont en colère contre un truc, mais les gens ils le savent même pas des fois. Ils sont en colère contre quelqu'un, ils sont en colère contre Dieu. Je comprends pas pourquoi Dieu a permis que ma fille se marie avec un inconverti. Je comprends pas, je lui avais demandé. Mais alors, les gens ils sont en colère contre Dieu. Alors là, je pense que ça commence à être un petit peu compliqué au niveau psychique. C'est écrit, enseigne-nous. Enseigne-moi à prier. Vous croyez que Dieu guérit? Vous croyez que ce matin, le Saint-Esprit peut guérir quelqu'un? Alors attention, ne me faites pas dire que toutes les maladies sont liées au manque de pardon. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande d'avoir le discernement. Mais qu'importe. Mais qu'importe après tout. Mais Dieu guérit. Vous le croyez que Dieu guérit? Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Cette femme, je vous dis, je finissais la prédication. Elle me dit, Monsieur Gou, il faut que je vous parle. Dieu a permis ce témoignage, parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. 40 ans de vie d'église, malade. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de pardonner. Et si vous ne pardonnez pas, ne vous imaginez pas que Dieu vous fera un passe-droit. Il faut pardonner. Surtout que nous pouvons pardonner. Pourquoi? Parce que Jésus a payé cher. Moi, je trouve qu'il a payé très cher même, pour que nous puissions avoir la force de pardonner. Oui ou non? Et c'est important, c'est pour ça que tout à l'heure, on va prendre la Sainte-Seine, et si quelqu'un a besoin de guérison, mais dit qu'il dit, Seigneur, mais guéris ma tête, mais guéris mon cœur, que quand je lis, que ton nom soit sanctifié, là aussi, que ton nom soit sanctifié. Vous comprenez bien pourquoi ça n'a pas à voir avec les mots, mais avec la portée, les quelques mots. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que dans ma vie, ton nom est sanctifié? Est-ce que dans l'assemblée où tu m'as placé, nous faisons tout pour sanctifier le nom du Seigneur? Est-ce que c'est important la sainteté dans une église? Eh oui. Que ton nom soit sanctifié. Ce ne sont pas des mots. Je reviens aux victoires sur la tentation. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous demande de prier, garde-nous du malin, délivre-nous du malin. Dieu peut nous délivrer. Dieu veut nous délivrer et il a le pouvoir de nous guérir. Non, ce n'est pas le nombre de mots. Il y a des gens qui s'imaginent, oui, à force de paroles. Moi, j'aime prier longtemps. En plus, je sais ce que je dis. Mais c'est une chose de prier longtemps et c'est une chose de croire que plus je prierai, Dieu va m'exaucer. Il y a des textes dans la Bible qui font mal au cœur. Quand on voit le nombre de fois où Dieu dit, mais quand vous élevez les mains, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché. Parce qu'ils sont, c'est souvent l'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament, ils sont retombés dans l'idolâtrie. Et nous devons nous faire gaffe. Ce n'est peut-être pas des idoles de bois et d'argent, de pierre et de plâtre, mais ça peut être des choses qui prennent la place de Dieu. Oui ou non? Est-ce que des chrétiens, il y a des chrétiens, c'est pas la face de Dieu qui cherche, c'est Facebook. C'est la face de... Ça veut dire quoi, Facebook? Écoutez, moi, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Comment? Trombinoscope? M'a fait écouter. Ce que je veux dire, c'est qui? Vous cherchez la face de qui? Le deuxième texte. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Vous savez que chaque mot est pesé. À ses élus, les élus, ce sont ceux qui ont répondu à l'appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il y a beaucoup, Dieu appelle tous les hommes, mais il ne dit pas Dieu fera justice aux chrétiens. Chrétiens, j'allais dire aux chrétiens lambda. Normalement, tous les chrétiens devraient être des élus. Combien de chrétiens ne sont que des chrétiens de nom? Ils ne sont pas sérieux. Ce genre de prédication les révulse. Ils veulent des choses plus intéressantes. Mes frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus va revenir nous chercher, il y ait de la foi dans nos cœurs. Que quand Jésus va revenir nous chercher, nous ayons des prières vraies. Des prières qui sont en adéquation avec ce que nous sommes vraiment. Et si nous avons besoin de demander pardon, eh bien je vais demander pardon. Nous devrions dire, Seigneur, mais montre-moi s'il y a quelque chose qui fait obstacle à la prière. Est-ce que je désire vraiment ce que je suis en train de demander quand je chante ou quand je prie? Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est bien ce que je vous dis?
Est-ce que c'est vrai? Et purifie-moi. Brise-moi, façonne-moi. Moi, quand je chante « Brise-moi », je vous avoue que je le chante. Hein. Mais je sais que ça peut avoir des conséquences. Et Dieu, il voit tout ça. C'est pour ça qu'il dit « Mais ne faites pas comme les païens. Ne vous imaginez pas qu'eux. Mais regardez s'il n'y a pas des obstacles. Regardez si ce que vous le demandez vraiment. Est-ce que c'est vrai quand tu parles de que ta volonté soit faite? Mais est-ce que, sérieusement, là, on n'est pas là, c'est pas du tout pour culpabiliser. Parce que franchement, il y en a assez avec l'accusateur. C'est pas la peine que les chrétiens s'y mettent. Mais soyons honnêtes. Est-ce que vraiment, je suis sûr que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que, franchement, bon, vous voyez, ce matin, quand je priais, Dieu m'a mis à cœur quelqu'un, il faut que je l'appelle pour lui dire qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça fait un moment que ça me travaille, mais je sais que ça va le choquer. Et je sais que c'est vrai. Mais, puisqu'on est quand même là devant Dieu, vous êtes d'accord? On est devant Dieu, on dit, Seigneur, mais enseigne-moi à prier. Moi, je veux être de ceux qui vont avoir la foi. Vous savez, quand Jésus va revenir et qu'il y aura tant de vierges folles, tant de gens qui se seront éloignés à cause de l'iniquité, parce qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se sera accru. Mais pourquoi? Mais parce que les gens n'ont pas prié comme ils auraient dû prier, parce que la prière nous garde. Est-ce que la prière nous garde? Oui ou non? Est-ce que la prière remplit nos lampes d'huile? Oui ou non? Est-ce que la prière nous rapproche de Dieu? Oui ou non? Donc, c'est sûr. Et vous savez, le diable, rien ne le gêne. Rien. Sauf la prière. Il connaît les versets. Est-ce qu'il connaît les versets, le Seigneur, le diable? Est-ce qu'il les connaît? Eh bien sûr, vous avez vu comment il a tenté Jésus dans le désert? Avec quoi il a tenté? Avec la parole. Avec la parole. Et s'il y a un verset que le diable maîtrise sûrement, c'est qu'il sait très bien que Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur la surface de toute la terre. » Il ne va pas nous empêcher de prêcher, il ne va pas nous empêcher de chanter, de jouer de la musique, de faire une activité dans l'église. Vous savez, il y a plein de gens qui prêchent, ils ne seront pas prêts. Ça lui est égal, ça. Il n'y a qu'une chose qui le gêne, c'est la prière. C'est pour ça qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Il est appelé l'accusateur des frères, jour et nuit. Vous comprenez pourquoi Jésus dit que Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat, et ce combat doit être un bon combat. Il y a un combat à mener. Vous le percevez, ce combat? Il y a un combat à mener. Et nous aussi, jour et nuit, il faut prier jour et nuit. Ça veut dire que 24 heures sur 24, il faut se trouver le plus souvent à genoux possible. Mais non, j'espère qu'on est tous conscients qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour se détendre. Mais vous voyez, ça, je me demande s'il faut le dire. Est-ce que les pasteurs doivent dire qu'il y a un temps pour la détente? Vous voyez, c'est une question que je me pose vraiment. Parce que ça suffit à une... Il y a des chrétiens, ils retiendront que ça de la prédication. Monsieur Gou, il a dit qu'il y avait un temps pour la détente. Alors on va se détendre. C'est grave, parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Et béni soit Dieu si Dieu nous accorde cette grâce d'avoir un équilibre parfait dans notre emploi du temps. Oui ou non? C'est merveilleux d'y avoir un temps pour tout. Mais en vérité, tout aussi peut être fait. Dans cet esprit de prière, est-ce qu'une femme, en passant sa serpillière ou son aspirateur, elle peut aussi prier le Seigneur, « Seigneur, bénis mes enfants. Voyez, c'est ça, c'est un état d'esprit. C'est l'inverse de ce que Jésus dit, ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'état d'esprit. Tiens, telle sœur, elle a un mari inconverti. Je te supplie pour cet homme, Seigneur. Et ça, ça plaît à Dieu quand on prie les uns pour les autres. Cette affaire-là, elle nous, c'est Jésus, n'oubliez pas, c'est le Seigneur, il savait très bien que nous avions besoin de ces deux enseignements, à savoir que ce n'est pas les mots, les obstacles. Est-ce qu'il y a un obstacle à la prière ? Deuxième partie, est-ce que je persévère ? Est-ce que je m'unis avec mes frères et sœurs quand Jésus dit si deux ou trois s'assemblent ? Ce n'est pas une question de nombre, mais ça nous montre bien que Dieu aime que nous nous retrouvions ensemble pour prier ensemble et il faut que nous aimions la prière parce que la prière, je le répète, nous approche de Dieu. Est-ce que je suis d'accord avec mes frères et sœurs ? Tout à l'heure, on va prier pour une sœur, une dame qui est en train de venir à l'église. Est-ce que Dieu peut la guérir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être guéri ce matin ? Je ne la connais pas, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais ça ne fait rien, je veux prier pour elle. Je vais prier pour mes frères et sœurs. Comment tu t'appelles ? On a prié pour toi tout à l'heure, ben je prierai pour vous. Est-ce que ça plaît au Seigneur ça ? Est-ce que vous comprenez ? L'individualisme, je peux vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Chacun pour soi, et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Moi, je n'ai pas de problème, mais... Vous en aurez des problèmes. Alors que vous soyez discret, que vous soyez réservé, c'est très bien. Chacun a sa personnalité. Mais je crois que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on prie les uns pour les autres. On ne prie pas que pour notre église, on prie pour toutes les églises. On prie pour le corps de Christ, on prie pour que les chrétiens soient debout, on prie pour que les frères et sœurs tiennent bon, on prie pour les couples. Ça vous fait pas mal au cœur quand vous apprenez que tel frère a divorcé ? Franchement, ça vous fait du bien ? Ça fait de la peine quand on voit toutes ces choses. Est-ce que je suis d'accord ? Oui, l'adversaire, il nous accuse... Vous savez, comme Job, vous savez l'histoire de Job ? Combien le diable a cherché à détruire ce frère ? Heureusement que Dieu fixe des limites. À toutes ces épreuves, vous connaissez l'histoire de Job, où il y a quand même la grâce de savoir que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces, etc. Mais il y a quand même une accusation, il y a un combat. Et même si ce combat il va se terminer et qu'on va être pour l'éternité entière dans le repos merveilleux, il n'empêche que ce combat, il est là. Et ce combat va s'intensifier si les églises ne prient pas. Si vous ne priez pas, vous allez avoir des combats terribles. Même si je sais que la prière, le début de la prière, vous avez vu combien c'est difficile parfois de commencer à prier. Est-ce que c'est à moi que ça arrive ? Ou est-ce que des fois, il y a plein de choses qui vous viennent dans la tête, des choses complètement débiles en plus des fois ? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Non mais des fois, vous commencez à prier, vous dites « mais je suis malade ». Je dois avoir un problème. Oui ou non ? Est-ce que ça arrive qu'à moi ? Je ne vous dirai pas. Mais franchement. Et puis après, au bout de quelques minutes, on sent qu'il y a comme une porte qui s'est ouverte. Parce qu'il y a une accusation. Le diable, il ne veut pas que vous priez. Il ne veut pas de réunion de prière. Il ne veut plus de réunion de prière. Parce qu'il sait que dans les églises où il n'y aura plus de prière, les chrétiens s'éloigneront de Dieu. Les pécheurs ne se repentiront pas. Il n'y aura plus de grâce. Il y aura de la religion. En veux-tu, en voilà. Il y aura peut-être la distraction, mais il n'y aura pas l'action du Saint-Esprit. L'ennemi, il est opposé à nos prières. Et nous, on veut la prière du Seigneur. Alléluia, est-ce que vous voulez la prière ? Nous avons à lutter, vous connaissez dans Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en vrac à cause de quelqu'un. Ils sont là, ils sont obsédés par la personne qui leur a fait du mal. Mes frères et sœurs, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations. Oui, il y a un combat. Il y a vraiment un combat. Alors on va lire un texte pour terminer ce moment. J'aimerais que vous le lisiez, peut-être comme vous ne l'avez jamais lu. Dans Philippiens, au chapitre 4, il y a un texte. Il y a un texte qui quand même, en dit long. Regardez ce texte. Philippiens, chapitre 4, il y a des commandements sur le fait de nous réjouir. On a chanté tout à l'heure, « J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur ». Peut-être que vous n'avez pas la joie à cause des épreuves, mais peut-être quand même vous avez la joie du salut. Oui ou non ? Oui, il faut bien expliquer les choses. Bien expliquer les choses. La joie du salut. Au verset 6, regardez bien ce verset. Je voudrais que vous vous souveniez ce matin de ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais ce n'est pas fini. Il ajoute, avec des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement nos prières, quand on dit quelque chose à Dieu, on ne lui apprend pas au moment où on le lui dit. Il le sait. Mais comme il y a un combat, c'est comme cette veuve, cette pauvre veuve qui n'avait rien, qui n'avait, mais elle avait le droit pour elle, elle avait la loi pour elle, elle savait, même si ce juge était méchant, inique, elle avait le droit pour elle. Bon, le droit, tout ça pour nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse pour nous, bibliquement, spirituellement, c'est les promesses. Est-ce que nous avons des promesses dans la Bible que Dieu nous a laissées? Pour qui le Seigneur a-t-il fait des promesses? C'est pour lui ou c'est pour nous? Y a-t-il des promesses dans la Bible qui indiquent, comme on va prier pour cette dame tout à l'heure, est-ce qu'il y a des promesses sur la guérison? Est-ce que le Seigneur a promis de guérir? Est-ce que le Seigneur a promis de pourvoir? Est-ce qu'il y a des promesses quand Dieu demande, par exemple, de prier le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans la moisson? Moi, ça, j'avoue, ça me fait de la peine de voir qu'il y a plein d'églises qui n'ont pas de pasteur. Ce soir, il me faut appeler un ancien dans une église qui s'occupe d'une église qui n'a pas de pasteur. Et je sais qu'il est découragé. Et je sais que ça me fait mal au cœur de savoir qu'il me faut m'occuper de quelqu'un qui doit s'occuper d'une église et qui est découragé. Je sais que ça va me prendre du temps pour bien lui parler. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a des promesses qui nous prouvent que Dieu veut qu'il y ait des ouvriers dans les églises? Oui! Et Dieu veut que nous combattions jour et nuit, c'est-à-dire, Seigneur, fais lever des ouvriers, fais lever des ouvriers. Je peux vous dire que Dieu, il aime ça. Et il sait la personne, le frère, l'épouse qui va falloir à ce frère pour combattre. Mes frères et sœurs, pourquoi il est dit des prières? Des supplications, parce qu'il y a des prières, c'est des prières. Moi, quand je prie pour le président de la République, c'est des prières. Quand je prie en ce moment pour Israël, c'est plus des supplications, parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé hier. Mais laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux supplier Dieu de protéger ses enfants. Avec des actions de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, mes frères. Écoutez bien, parce que les églises ne prient plus, des chrétiennes ne prient plus. Des actions de grâce. Seigneur, je te prie pour M. Dupont. Dieu, il sait que M. Dupont, il a tel besoin. Même s'il nous faut faire reconnaître nos besoins à Dieu, parce qu'il faut combattre. Mais je peux le faire avec action de grâce, parce que je sais que Dieu veut bénir M. Dupont. Quand on prie pour le fils de Claudine, quand on prie pour l'épouse de Madame, de M. Puet, etc., pour M. Bourdel et tous ceux que je vois dans l'église à ce moment, mes frères et sœurs, est-ce que Dieu veut sauver Madame Puet? Est-ce que Dieu veut sauver Morgane? Est-ce que Dieu veut sauver Monsieur Bourdel? Est-ce qu'il faut essayer de convaincre Dieu que Dieu veut sauver... Mais non, on ne va pas convaincre Dieu. Dieu veut que nous prions. Et que nous prions avec conviction, parce qu'un chrétien, il doit être convaincu, s'il prie, il dit, je prie, mais je sais pas. Mes frères et sœurs, la prière, elle doit être remplie de certitude. Je prie, même si c'est des supplications... Je prie avec action de grâce, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Alors je persévérerai, et je mettrai toute ma foi dans la prière. Ce matin, Madame Loupiac priait pour le salut des pécheurs, à cause de tous ces gens qui vont en enfer. Il n'y a pas eu beaucoup d'amen, alors peut-être vous l'avez dit dans votre cœur. Mais franchement, quand quelqu'un prie pour le fardeau des âmes, est-ce qu'on ne peut pas tous dire amen? Je veux de la conviction, je veux de la certitude. Dieu, il veut que l'on prie. Veillez et priez en tout temps. Heureux celui qui veille. Je lisais hier, je vais le synthétiser, le verset. Vous savez, quand Jésus dit, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il veillerait. On va le synthétiser. Si tu savais, tu veillerais. Si tu savais ce qui va arriver, tu veillerais. Oui ou non? Mes frères et sœurs, Dieu veut sauver tous nos enfants, je ne sais pas combien vous en avez. Dieu veut les sauver tous, il ne vous a pas donné des enfants pour que vos enfants aillent en enfer. Alors Seigneur, donne-moi de la conviction. C'est vrai, je ne peux pas venir le mardi soir, ça fait loin. Mais je vais avoir une heure de prière. Je veux l'avoir cette heure. Je vais demander à tel frère, à telle sœur. En septembre, on fera une semaine de jeûne et prière. Mais ce n'est pas la peine d'attendre septembre pour faire une semaine de jeûne et prière. Est-ce qu'on ne peut pas, dans nos communions fraternelles, après le culte de la communion, dire, est-ce que vous avez un besoin? Oui, priez pour mon mari. Priez pour mon fils, il a rétrogradé. Est-ce qu'on ne peut pas, dans nos petits... Oh, comment il s'appelle? Eh bien, je le marque. Je prierai pour le salut de son âme. Bien sûr, je vais d'abord vérifier s'il y a des choses qui font pas obstacle à la prière. Mais je ne veux pas me démobiliser. Je ne veux pas arrêter de prier. Je persévérerai jusqu'à la fin. Quand le Fils de l'homme viendra me chercher, il trouvera de la foi dans mon cœur.
Je suis convaincu, Seigneur. Je sais très bien que ça ne dépend pas des mots et que ça ne dépend pas du temps. Mais il y a un accusateur, mes frères et sœurs. L'ennemi, lui, connaît la persévérance. Alors ça vaut la peine que nous aussi nous persévérions. Si nous persévérons, nous aurons la victoire. La Bible de l'Apocalypse termine avec cette parole à celui qui vaincra. Est-ce que vous voulez être un vainqueur? Ou est-ce que vous faites partie de ces chrétiens découragés et décourageant les autres? Tu pries, toi? Oh, moi, j'ai arrêté. J'en ai marre, moi. Non, j'en ai marre. Hein. La prière, j'y crois, mais enfin, bon, moi, je prie plus. Inch'Allah. Vous l'avez jamais entendu, ça? Vous croyez que le Saint-Esprit est d'accord avec ça? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Vous savez ce qu'on va faire? On a une demi-heure devant nous, on va fermer les yeux. On a du temps pour la Sainte-Seine. On se recueille. Il faut qu'on ait du temps de qualité. Suite à ce que nous venons d'entendre, recueillons-nous solennellement. Et moi, je crois que dans un moment comme celui-ci, où nous examinons le Saint-Esprit, c'est pas possible autrement. Ou alors, si ça se passe pas, c'est que vraiment, ça va mal. Et que ça nécessite une vraie repentance, comme les chrétiens de l'Odyssée, à qui Jésus a dû dire, repens-toi, et du zèle, et repens-toi. Ça laisse supposer que la repentance ne suffit même plus. Il faut du zèle, c'est-à-dire de l'enthousiasme à revenir. Mon frère, si rien ne fait obstacle à tes prières, il t'exaucera. Comme cette femme qui m'a appelé hier matin, elle a prié 40 ans. Vous vous rendez compte? Elle a prié 40 ans pour rien. Elle a demandé pardon à Dieu. Pardon pour son mari, pardon à son mari. Et Dieu l'a instantanément guéri. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui dit oui, je sais que c'est pas les mots qui comptent, c'est pas mon vocabulaire, ça j'ai bien compris. Mais où j'en suis de la louange? Où j'en suis de la sainteté? Qu'est-ce que je dis à Dieu vraiment quand je lui dis que ta volonté soit faite? Qu'est-ce que je lui dis vraiment? Ta volonté, vous rendez compte? Ça veut dire que peut-être cet après-midi Dieu vous veut là, ça veut dire peut-être que cet après-midi Dieu que vous alliez visiter, je sais rien. Mais Dieu il vous le montrera. Que Dieu veut que vous fassiez ceci. Que Dieu veut que vous veniez le mardi à la... Je ne sais pas, moi, c'est pas à moi de vous le dire. Mais quand on prie que ta volonté soit faite, si ce n'est pas des mots, ça va se concrétiser. Demandons-lui son aide. Demandons-la lui. Si ce matin, votre prière, ça doit être juste pardon, eh bien que ça soit ça. Si vous n'avez... De toute façon, il y a des fois, il n'y a que ça que Dieu exauce. Seigneur, je te demande pardon pour ma dureté ou mon orgueil, et je vais demander pardon à ces trois personnes qui me révulsent. Je vais leur demander pardon. Eh bien, Dieu vous bénira. Éternel notre Dieu, jamais nous ne te remercierons assez pour ta parole. Où serions-nous, Seigneur? Dans quel bourbier nous trouverions-nous si nous n'avions pas ta parole, même si tu nous avais lavé par ton sang? Merci pour ta parole. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que dans ce lieu, où des hommes et des femmes qui t'appartiennent, où des pécheurs que nous sommes devenus tes enfants, nous voulons que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que ta volonté soit faite. Nous voulons prendre les victoires sur la tentation. Parce que c'est ta volonté. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever, s'il vous plaît, à votre place, avec beaucoup de joie et de respect. Faites-le, réalisez la grâce qui est la vôtre, d'être dans la maison de Dieu. Vous pourriez être alité, vous pourriez être malade, paralysé dans une chambre, tout seul, dans un hôpital. Dieu fait que vous êtes là ce matin. Est-ce que vous réalisez le bienfait que c'est? Alors prenons ce pain et ce vin avec beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'admiration de notre Père Céleste. Vraiment, dit Seigneur, mais oui, ce vin me rappelle ton sacrifice, la victoire. Ce pain me rappelle ton brisement, la victoire. Le pain et le vin nous rappellent automatiquement que Jésus a tout accompli pour que ce que l'on a partagé, ce que le Dieu va nous demander, on puisse le faire. Quelle grâce! Quelqu'un peut-il être délivré, je ne sais pas moi, du tabac, de l'agressivité, j'en sais rien. Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un? Oui. Oui, on a des promesses. Comme la veuve. La veuve, elle savait qu'elle avait le droit, même si cet homme était méchant. Et nous, on n'a pas affaire à un juge unique, nous. Nous, on a affaire à un Dieu plein de bonté. Alors, à plus forte raison, mes frères et sœurs. À plus forte raison.